Radio Prague, les informations.
Selon Transparency International, les mesures anticorruption discutées par la future coalition auront un impact minimum. Le forum économique de Jofin se tient actuellement à Prague et Václav Klaus ne participera pas au congrès de l'ODS qui se tiendra samedi. Bonjour. Selon le président de la section tchèque de l'organisation non gouvernementale Transparency International, les mesures anticorruption qui sont actuellement discutées par les partis membres de la future coalition gouvernementale auront un impact minimum. Nous sommes vraiment navrés de voir que les discussions sur la corruption, quand bien même tous insistent sur l'importance de cette question, ont dégénéré en négociations sur un certain nombre de mesures répressives controversées, a déclaré le président tchèque de Transparency International, Václav Laska. Transparency International prône en effet une démarche et des mesures plutôt préventives. Le forum économique de Jofin, rencontre régulière d'experts et d'hommes politiques, se tient ce jeudi à Prague. Il se penchera sur la réforme du système des retraites préparée en République tchèque. Ses participants entendront les conclusions du groupe d'experts et de consultants du ministère des Finances et du ministère des Travail et des Affaires sociales. La commission en charge de cette question a présenté récemment deux variantes possibles pour cette réforme. Le président de la République, Václav Klaus, ne participera pas au congrès du Parti civique démocrate, l'ODS, qui se déroulera samedi prochain. Selon son secrétaire Ladislav Jakel, au lieu de venir, il adressera au congrès une lettre de salutation. Václav Klaus avait reçu une invitation du leader du parti, Petr Nečas, qui a remplacé Mirek Topolánek, lequel sera également absent. Václav Klaus avait fondé l'ODS il y a 20 ans. Pour le quitter il y a un peu plus d'un an, dimanche, ce principal parti de droite va choisir sa nouvelle direction. C'est ce soir à 21h30 que prendra fin l'état d'urgence en Moravie qui avait été déclaré à cause des inondations de mai dernier. Pour les collectivités et leurs habitants qui ont été touchés par la montée des eaux, il faut maintenant gérer les conséquences de ces inondations. Beaucoup de gens ont vu leur logement ou leur terre très endommagée. Dans certaines zones, l'eau n'est pas encore totalement écoulée et les populations doivent faire face à la prolifération des moustiques, comme l'a révélé une enquête de la Četeka, l'agence de presse tchèque. Une histoire insolite. Mercredi, un tram a roulé pendant environ 1 km sans conducteur à Prague sur la route de Plzeň et s'est arrêté après 2 arrêts lorsque les services des transports en commun ont réussi à couper le courant. Il n'y a pas eu de dégâts et personne n'a été blessé alors que la situation aurait pu être particulièrement périlleuse. À l'origine de cet incident, une erreur humaine, probablement du conducteur qui essayait désespérément de rattraper son véhicule en bicyclette. Et le Festival international de musique United Iceland sera cette année à sa 7e édition. Il aura lieu du 24 au 26 juin à Prague. L'entrée sera gratuite à tous les programmes organisés dans le cadre du festival qui se déroulera sur plusieurs îles de la Vltava, située au centre de Prague. Et on termine avec la météo. Ce jeudi, le ciel en Tchéquie est presque dégagé, mais il faut s'attendre à des précipitations locales. Les températures diurnes se situeront entre 18 et 20 degrés et 22 degrés pour les maximales. Des passages pluvieux sont à prévoir dans les prochains jours et nous fêtons aujourd'hui les Adolphes selon le calendrier local. Voilà, c'était le bulletin d'information présenté par Anne Clairvelure.
Faits et événements en République tchèque. Anna Kubišta.
Bonjour à toutes et à tous. Dans l'édition de ce jour, nous évoquerons le centenaire des Žlutelaznier, un lieu convivial situé sur les berges de la rivière Vltava. Paris et Montpellier rendent hommage à Jiří Kilian, chorégraphe d'origine tchèque, au style éclectique et inclassable, qui a fait la renommée du Netherlands Dance Theater de La Hague. Enfin, un mot de sport pour finir avec du foot, évidemment. Le club de Sparta Prague a engagé 2 joueurs camerounais. Guillaume Larguet nous donnera des détails. Bonne écoute à toutes et à tous. Les bains jaunes ou Žlutelaznie en tchèque, établissement des bains publics situé sur la rive droite de la Vltava, fête ces jours-ci son centenaire, l'occasion d'évoquer le passé et le présent de cet établissement qui a joué un rôle important dans les loisirs des Pragois et qui aimerait aujourd'hui renouer avec sa gloire d'antan. Mats Savrichter.
Le 16 juin 1910, les nageurs et les amateurs de bains de soleil pragois se sont vus offrir un joli cadeau. C'est grâce à une initiative de l'association des bains fluviaux que se sont ouverts ce jour-là, sur l'ancien poste d'amarrage de radeaux de la Vltava, des bains publics d'une capacité de 9000 visiteurs. Selon l'historien Jiří Frost, l'établissement a été l'un des meilleurs de son genre.
Les bains jaunes ont fait partie des bains fluviaux les plus populaires, les plus fréquentés et les plus recherchés. Les gens les fréquentaient très assidûment, ce qui veut dire que la majorité des baigneurs y réservaient des vestiaires permanents.
Situés un peu en amont de Prague, les bains jaunes proposaient aux nageurs des baignades dans une eau qui n'était pas encore polluée par son passage par la capitale. Sous la chaleur d'été, l'établissement devenait un important centre de loisirs et de vie sociale. Le témoignage d'une cliente qui fréquente les bains jaunes depuis un demi-siècle démontre que les baigneurs y jouissaient aussi d'un certain confort.
Il y avait une multitude de cabines et il y avait aussi des piscines en bois. Vous savez, c'était dans mon enfance, il y a 50 ans. Il y avait donc 3 piscines en bois, une piscine étant réservée aux enfants et une autre aux nageurs adultes. Évidemment, il y avait aussi l'entrée dans la rivière, je me baignais dans la Vltava et je nageais toujours jusqu'à la rive opposée. Bien sûr, je n'arrivais pas à le faire quand j'étais toute petite, mais un peu plus tard. C'était bien différent. Il y avait plus d'espace, il y avait beaucoup de bancs, des arbres donnaient de l'ombre et de la fraîcheur. On pouvait se détendre.
Les Pragois y venaient aussi pour faire du sport. C'est au bain jaune qu'est d'ailleurs né un nouveau sport, le nohejbal, appelé en français le tennis ballon. C'est entre les années 1930 et 1960 que la popularité des bains jaunes a atteint son apogée. Dans les années 60, on pouvait y voir, parmi les baigneuses, la plantureuse beauté Olga Choberova, future star de cinéma. La fin des années 60, cependant, a amené le déclin de l'établissement. Le public, attiré par d'autres piscines et lacs artificiels dans les environs de Prague, s'en est détourné progressivement et la direction de l'établissement n'a alors pas fait grand-chose pour l'attirer. Ce n'est qu'en 2005 que l'établissement renaît de ses cendres. Aujourd'hui, il propose au public une plage sur la rive de la Vltava, un espace pour les naturistes, des cafés et des restaurants et plusieurs terrains de sport. Ce n'est plus seulement un établissement d'été. Même en hiver, les visiteurs y trouveront une piste de descente pour enfants, des pistes pour skieurs de fond et snowboarders.
Jiří Kilian est le chorégraphe tchèque le plus connu hors des frontières de son pays d'origine. Paris et Montpellier rendent hommage en ce début d'été à l'ancien directeur artistique du célèbre Netherlands Dance Theater. L'occasion de revenir sur le parcours de cette personnalité incontournable de la danse contemporaine. C'est d'abord le cirque et l'acrobatie qui séduisent Jiří Kilian tout petit. Mais à 9 ans, il intègre le ballet du Théâtre National de Prague, étape qui marque le début d'une carrière entièrement dédiée à la danse. D'abord en danseur, interprète, Jiří Kilian est aujourd'hui connu et reconnu comme chorégraphe. Après une bourse à la Royal School of Ballet de Londres, il rejoint le ballet de Stuttgart en 1968 et travaille sous la direction de John Cranko qui le mène à la chorégraphie. Mais c'est par le Netherlands Dance Theater dont il devient directeur artistique en 1976 que Jiří Kilian se fait un nom. Créateur de plus d'une centaine de ballets, le travail de Kilian a progressivement évolué vers l'abstraction dans les années 80. La compagnie implantée à La Hague, en Hollande, prend ses lettres de noblesse sous sa direction, notamment grâce à des projets tels qu'une troupe pour les danseurs de 40 ans et plus. On écoute Jiří Kilian évoquer à la radio publique tchèque, il y a quelques années, le NDT3, malheureusement aujourd'hui disparu pour des raisons financières.
Le pire, c'est quand vous travaillez avec un danseur pendant 20 ans, vous vous influencez mutuellement pendant tout ce temps. Un jour, il a 40 ans, c'est un artiste mûr, mais il n'a plus la capacité de faire ce que vous lui demandez. C'est terrible. Je l'ai vécu plusieurs fois dans ma carrière de chorégraphe. J'ai dû dire à des danseurs âgés, « Je t'aime beaucoup, mais ça ne va plus ». Ce sont les pires moments d'un directeur de ballet. C'est pourquoi j'ai créé le NDT3, où j'ai utilisé les qualités individuelles, charismatiques de telle façon que sur scène on pouvait voir des personnes de 50, 60 ans qui ont des choses à dire totalement différentes que quelqu'un de 20 ans.
Který mají něco říct, něco, co je úplně jiné, než takový 20-letý tanečník.
Cette ouverture est typique du travail de Jiří Kilian, qui a également formé des générations de danseurs.
Je pense que le plus important, c'est que le danseur possède une identité propre. C'est l'alpha et l'oméga. Certains sont plus musicaux, d'autres plus élancés, d'autres plus beaux. La musicalité est évidemment très importante, mais surtout l'ouverture. Il faut qu'il soit capable d'accepter des choses nouvelles dont il ne sait rien. Pour moi, le pire, c'est quelqu'un de renfermé qui ne voit pas ce qui l'entoure. C'est ce type de choses qui sont importantes pour un danseur de chez Kilian.
Aujourd'hui, le ballet de l'Opéra Bastille à Paris vient de faire rentrer la création de Kilian Kaguya-Hime à son répertoire, un ballet inspiré d'une légende japonaise qui sera joué jusqu'au 15 juillet prochain. Autre ville à rendre hommage au travail inclassable du plus éclectique des chorégraphes tchèques, Montpellier et son festival qui mettra à l'honneur le NDT les 28 et 29 juin. Si à 63 ans, Kilian a définitivement quitté le NDT, dont il était dernièrement chorégraphe résident associé, son nom reste encore indissociable de la troupe. Plus de 20 ans après la révolution de velours, les changements politiques et l'ouverture des frontières, rares encore sont aujourd'hui les joueurs étrangers, et plus encore africains ou de couleur, à évoluer dans les équipes tchèques de football. Sacré champion de République tchèque la saison dernière, le Sparta Prague ne possédait ainsi qu'un seul joueur noir dans son effectif, le jeune attaquant ivoirien Bonny Wilfried. Malgré tout, les choses changent peu à peu. Lundi, ainsi, les dirigeants du Sparta ont annoncé avoir engagé deux Camerounais et tester deux autres Ghanéens, Guillaume Narguet.
Bondoua Adiaba et Léonard Kweke, ce sont les noms du défenseur et de l'attaquant camerounais que les supporters, tendance plutôt crâne rasé du Sparta de Prague, devront apprendre à prononcer dans les semaines à venir, avant la mi-juillet et l'ouverture de la nouvelle saison du championnat tchèque. Deux joueurs camerounais de 23 ans qui ont signé pour un prêt d'un an avec option d'achat et arrivaient directement en provenance de Slovaquie chercher l'erreur. Le plus expérimenté des deux, au vu de leur précédent parcours, est sans doute Léonard Kweke, auteur de 11 buts en 16 matchs lors de son arrivée en Slovaquie en 2008. Il a ensuite été prêté en Allemagne à l'Eintracht Francfort et à l'Energie Cottbus. Parallèlement à la signature d'Adiaba et Kweke, le club pragois, actuellement en stage de préparation au Boheme de l'Ouest, teste également deux jeunes Ghanéens, Abeiku Kansa et Enoch Kofi Adu, en provenance eux de l'OGC Nice. Les concernant l'encadrement technique du Sparta devrait prendre une décision au plus tard en fin de semaine prochaine au retour d'un nouveau stage, cette fois en Autriche. Quoi qu'il en soit, c'est une évidence, le club le plus titré de République tchèque a décidé de se tourner vers l'Afrique pour répondre au manque de talent auquel il est confronté à l'échelle nationale. Pour Bonny Wilfried, l'avant-centre ivoirien du Sparta, il peut s'agir d'une solution car selon lui, peu importe qu'il s'agisse de joueurs tchèques ou africains.
Moi je pense que c'est pas important, le football n'a pas de langue. Hein. C'est l'adaptation et le vouloir. Quand tu veux, tu peux. C'est ça, quoi. Une fois t'es là, tu te dis, bon, tu tranquillises ta tête, tu travailles le maximum possible et les résultats suivront.
On sait que l'une des politiques en ce qui concerne le recrutement du Sparta de Prague est justement d'essayer de chercher des jeunes joueurs, alors ailleurs dans le monde qu'en Europe, essentiellement pour une raison financière, mais aussi parce que notamment l'Afrique est une terre où il y a beaucoup de jeunes talents. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres joueurs africains qui pourraient intégrer le Sparta ou alors venir dans le championnat tchèque?
Je pense bien, mais comme je dis actuellement c'est pas, je suis ici pour me faire une place, je suis ici pour, ils savent que bon, j'ai montré un peu de ce que je sais faire, donc ils savent que vraiment les joueurs en Afrique, ils voient partout, les joueurs en Afrique partout, même jouer ici contre Kodagne, ils voient un peu partout les joueurs, et bon, c'est à eux de chercher, comme ils ont des scouteurs, et puis s'ils me demandent s'il y a des amis, je dis bien, monsieur, les amis, ils sont tous de bons joueurs, c'est à eux de chercher. J'ai même entendu qu'il y a des Camerounais qui vont bientôt signer, là, donc... Ils étaient en Tesla. Et je pense que ce serait une bonne chose, quoi. Ouais.
Plus encore qu'un souhait, cette orientation vers l'Afrique est avant tout une nécessité économique pour le Sparta ou le Slavia de Prague, qui lui aussi teste plusieurs joueurs étrangers, dont certains Africains en cette période de pré-saison. La majorité des jeunes joueurs tchèques de talent qui évoluent dans les autres clubs du pays sont en effet devenus trop chers pour le Sparta comme pour le Slavia, et leurs dirigeants préfèrent désormais les vendre directement à l'étranger, sans passer par les clubs de la capitale, comme cela était le cas auparavant.
Ces vendredis et samedis, l'île de Štvanice à Prague se transforme en podium de musique du monde avec des musiciens venus des quatre coins de la planète. Parmi les invités du festival Respect, le trio Joubran, formé par trois frères palestiniens issus d'une famille de luthiers qui jouent merveilleusement d'un instrument trop méconnu, de l'oud. On écoute un extrait. Voilà, c'est avec la très belle musique du trio Joubran que s'achèvent ces faits et événements. Le trio Joubran jouera à Prague samedi dans le cadre du festival Respect. Tout de suite, on retrouve le miroir de la société avec Alena Kebertova.
Miroir de la société, Alena Kebertova.
La République tchèque et la Belgique ont été choisies pour désigner une ville qui portera le titre de capitale européenne de la culture 2015. Il s'agit d'un titre qui est attribué chaque année à deux ou trois villes européennes. Pour la partie belge, la ville de Mons a déjà été sélectionnée. La Tchéquie, pour sa part, possède pour l'heure deux candidats, Ostrava et Plzeň. Le vainqueur du duel à l'amiable entre les deux villes devant être désigné en septembre prochain. La tension monte donc en attendant le verdict du jury international qui compte 7 représentants étrangers et 6 représentants nationaux. Ce sera le thème de notre rubrique bimensuelle d'aujourd'hui. Les lieux pour une vie heureuse, tel est le slogan du projet Ostrava 2015, ville située en Moravie du Nord, connue surtout comme ville minière. L'ambition d'Ostrava est pourtant bien plus large. Depuis longtemps, elle entend se faire connaître comme une ville qui bouge et qui possède une intense vie culturelle et sociale. Pour sa candidature au titre de capitale européenne de la culture 2015, elle a reçu un soutien de taille, celui de l'ex-président tchèque Václav Havel, qui a écrit à son sujet.
Ostrava, toujours trop loin de la capitale Prague, est dotée d'un genius loci très spécifique. Synonyme de l'industrie lourde et du charbon, elle n'est pas reconnue comme centre culturel ou éducatif. Ce désavantage lui a permis en même temps de résister à l'engineering social et à la pression de la mondialisation et de s'attendre à une forte revitalisation. C'est pour cette raison que j'appuie sa candidature, car il faut reconnaître, apprécier et développer la beauté discrète de notre paysage et de nos villes.
Depuis fin mai, Ostrava se présente à Prague avec un riche programme culturel. Pièces de théâtre, concerts, expositions qui rencontrent d'ailleurs un joli succès. Le récent concert donné par le très populaire groupe Bouti devant une salle pleine l'a confirmé.
Malý kousek.
Plzeň, chef-lieu de Bohême occidentale, est connue de par le monde comme ville de la bière. Ses habitants aiment pourtant souligner avec un brin d'ironie que ce n'est pas la célèbre marque Pilsner Urquell qui a donné le nom à la ville, comme certains voudraient le croire, mais vice-versa. En présentant sa candidature au titre de capitale européenne de la culture 2015, Plzeň veut non seulement accentuer et améliorer son potentiel culturel, mais démontrer aussi, justement, que la ville mérite d'être reconnue également pour autre chose que sa fameuse bière. Nous nous sommes entretenus à ce sujet avec Ivona Krojsmanová, directrice du projet Plzeň 2015.
C'est la ville qui a donné le nom à une des bières qui est le plus connue en tout le monde. Et je pense que la publicité de la ville devrait être aussi connectée avec la culture, les arts et vraiment le développement de la ville créative.
Une façon de dire que le potentiel culturel de la ville est important.
Il est très important. Il faut dire qu'il y a une grande université qui se développe énormément. Et alors, il y a beaucoup de jeunes gens qui veulent absolument changer toute la culture dans la ville, qui est un peu traditionnelle à ce moment. Mais on voit le futur dans les arts contemporains et toutes les connexions parmi les disciplines artistiques.
Vous êtes directrice artistique du projet. En quoi consiste votre travail?
Mon travail est bien difficile parce qu'il faut quand même créer la vision culturelle de la ville qui va dépasser beaucoup plus que l'année 2015. On travaille sur la nouvelle politique culturelle de la ville et de toute la région. Et en même temps, j'essaie vraiment de donner l'espace à toutes les petites activités dans la région. Et créer la vision qui est vraiment en connexion avec les habitants et qui va dépasser la frontière à travers la coopération sur les résidences et les réseaux artistiques dont je suis membre déjà longtemps.
L'un des buts de ce projet, à mon sens, c'est d'impliquer la population de la ville dans ce projet. Est-ce un défi difficile ?
C'est un peu difficile parce que la mentalité des Tchèques est encore assez fermée. C'est pourquoi on a aussi décidé à trouver l'ouverture comme le logo, le motto principal de notre candidature parce qu'ils ont ouvrir les gens aussi dedans. Ils sont pas encore prêts à communiquer tellement avec Europe, mais c'est pas seulement le problème de Pilsen, c'est le problème de tous les pays de l'Europe de l'Est.
Il paraît qu'il y a près de 10% de ressortissants étrangers qui vivent à Plzeň. Est-ce que le projet compte aussi éventuellement impliquer ces étrangers?
Bien sûr, ce projet a beaucoup d'aspects sociaux et économiques et écologiques aussi. Et intégration des immigrants qui sont vraiment nombreux à Plzeň, c'est très important dans notre projet. On a créé une ligne de programmation qui travaille avec tout ce potentiel étranger.
Est-ce que vous-même, vous avez des liens qui vous attachent à Plzeň?
Bien sûr, c'est surtout la tradition des marionnettes et des acteurs. Une grande actrice, c'était Anna Krojsmanová qui a donné le nom à Manička, une des marionnettes très connues dans toute la République tchèque. Et c'était membre de la famille où j'ai bien sûr aussi joué le rôle. Et... En ce qui concerne la région, je suis ravie vraiment par la nature et j'y viens très souvent avec beaucoup de plaisir.
C'est une ville plaisante à vivre. Il y a une université, il y a pas mal de jeunes gens, d'étudiants.
C'est ça, même si maintenant le développement démographique n'est pas tellement bon. Je suppose qu'avec le projet culturel, on va attirer l'attention de beaucoup d'étudiants pour rester à Plzeň, pour créer les familles là-bas, parce que c'est une ville vraiment plaisante.
Il s'agit d'un duel entre deux villes tchèques, Ostrava et Plzeň. Quelles sont d'après vous les chances de Plzeň?
Bien sûr que je crois que Plzeň sera la ville européenne de la culture parce que les chances de notre ville sont, de mon avis, plus grandes à cause des expériences de coopération artistique européenne, pas seulement régionale. On utilise le slogan en anglais qui veut dire « Plzeň open up ».
Když jsem šel z Vlej na vod Mariánky, Potkal jsem na záspy dva vojáky. Duli, duli, dej, duli, duli, dej, duli, 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 dej, duli, duli, dej, duli, duli, dej, duli, 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 dej. Vojáci milí, kam padete? Tady si nablouvat nebudete. Duli, duli, dej, duli, duli, dej, duli, 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 dej, duli, duli, dej.
Plzeň et Ostrava espèrent que l'obtention du titre augmentera leur prestige tout en leur apportant des avantages économiques et un plus grand intérêt des touristes. Rappelons que c'est en septembre que le verdict tranchant entre les deux villes sera prononcé. En Tchéquie, Prague a déjà été capitale européenne de la culture en 2000.
Blinář nám přislíbil jítrnice. Duli, duli, dej, duli, duli, dej, duli, 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 dej, duli, duli, dej, duli, duli, dej, duli, 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 dej. Blinářka nám dá jelita prejt, aby jsme nechali dcerušku bejt. Duli, duli, dej, duli, duli, dej, duli.
Les émissions en langue française de Radio Prague sur ondes courtes, c'est terminé, mais les émissions de Radio Prague continuent évidemment sur le web, en retranscrit. Notre adresse, vous la connaissez, c'est le www.radio.cz. Merci de votre fidélité, à bientôt, ahoy.
Mlinářičku, mlináři, ubílenej ve tváři. Proč? Sis nevzal ženu jinou, tahle ta jen mele hubou vylehává pod peřinou. Mlinářičku, mlináři. Mlinářičku, mlináři, ubílenej ve tváři.
En su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0:30 horas UTC los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.